L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, pour notre méditation de ce dimanche 20 décembre. L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au nom de Jésus. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parentée, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. On peut dire que ce texte est le texte le plus populaire de la Bible. Je dis bien populaire, car il s'est inscrit même parmi les textes dans la culture générale du monde entier. Et comme la fête de Noël, qui est devenue une fête, je ne dirais pas païenne, mais populaire. La fête de Noël n'est plus une fête chrétienne, finalement, elle est devenue une fête populaire. C'est un texte qui a dépassé largement la notion biblique, c'est-à-dire du privé vers le grand public. Alors, à chacun a sa propre approche pour lire ce passage. Il y a ceux qui vont le prendre comme étant une légende autour de la naissance de Jésus. Et pour ce groupe de personnes, son aspect légendaire qui rend ce récit célèbre et non le contenu du récit, c'est ce qui est bizarre. C'est fou, c'est vraiment ce qui se passait depuis toujours autour de cette fête. C'est sa représentation qui est devenue primordiale pour les gens, importante et non son message. Et pourtant, cet aspect presque magique, légendaire, qui pousse la plupart à ne pas croire à l'incarnation, et pourtant, toute la sève de ce récit se réside dans cet étonnement, ce truc bizarre sur l'annonce de la naissance de Jésus. Alors, en relisant lentement, calmement et à maintes reprises le texte, moi aussi j'ai eu l'impression de voir Marie prise en tenaille entre deux réalités. Deux réalités plus grandes qu'elle et qui la dépassent largement. D'un côté, on voit ici le ciel qui s'ouvre devant elle, l'éternité, et l'envoyé du ciel qui vient à elle et lui dit « L'Esprit Saint et la puissance du Très-Haut, c'est bien précis, la puissance du Très-Haut, te prendra sous son ombre, te couvrira, te submergera. » Et de l'autre côté, l'enfant qu'elle va enfanter et qui va naître d'elle, il est aussi dit dans le texte, cet enfant est plus grand qu'elle, donc elle est toute petite au milieu. Le ciel qui couvre Marie et l'enfant qui va sortir d'elle, il est dit que cet enfant est plus grand, car dans le texte, on le qualifie le Fils de Dieu. Et il précise, le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu. Cet enfant, il règnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. En d'autres termes, sa destinée à Marie est entre deux immensités, l'éternité et la divinité du Fils de Dieu. Immense que cette petite femme qu'elle ne pourra même pas imaginer. Et Marie se retrouve au milieu de tout cela. Comment est-elle décrite dans le texte, Marie, face à ces deux choses immenses? Tout d'abord, on dit que c'est une jeune fille vierge de Nazareth. Regardez bien la combinaison de ces mots marque, selon moi, la fragilité de cette femme, la petitesse de Marie, une jeune fille, fragile. Et en plus, elle vient de Nazareth, ça veut tout dire. Rappelons-nous de la fameuse question de Nathanaël quand Jésus l'a rencontrée dans Jean chapitre 1, verset 46. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Pour vous dire, Nazareth, on ne le connaît même pas. Nazareth est insignifiant. Nazareth qui n'est pas célèbre ou réputé, voire presque inconnu. Et cela me fait rappeler une anecdote. Lors d'un voyage d'une personne, d'un malgache, qui partait du Canada pour aller rejoindre son pays à Madagascar. Et quand il a sorti son passeport devant le personnel de l'aéroport, et quand les employés de l'aéroport ont vu « passeport Madagascar », ils n'ont pas cru. Ça existe. C'est où Madagascar? Ils n'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'il a fait le gars? Ils ont tout fait pour faire venir une carte. Montre-nous sur la carte où se trouve ce pays Madagascar. Et le voyageur était un peu gêné devant tout le monde qui attendait derrière. Mais eux, ils ne croyaient pas au gars. À la limite, c'est un faux passeport. Et on demandait aux voyageurs de montrer sur la carte c'est où. Et quand ils l'ont vu, ah, ça existe. Oui, ça existe. C'est un peu dans le cas ici. Marie de Nazareth. C'est quoi Nazareth? C'est rien. Et alors Marie répliqua, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. On pourrait penser que Marie avait prononcé cette phrase peut-être comme signe d'humilité, c'est souvent le message que nous entendons. Oui, Marie était humble. Non, je ne crois pas. Mais en tenant compte des deux réalités immenses qui la prenaient en tenaille, je dirais plutôt, cette phrase est plutôt logique et normale, car elle se sent toute petite devant l'immensité de Dieu. Un contraste. L'éternel qui surplombe cette jeune fille avec son origine, elle est toute petite, toute insignifiante, en contraste avec la grandeur et la grâce qui l'inonde et la submerge. Et elle-même, elle fait une sorte de constat à Marie. Et pour rajouter encore mon argumentation, l'évangéliste Luc précise qu'elle était impressionnée face à ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. Et en regardant qui elle est et qui elle va enfanter, et d'où cela vient, elle se dit, comment ne pas avoir peur face à cette grande nouvelle qu'elle entend et qui est tellement vertigineuse. Chers amis, personnellement, ce qui me fascine dans ce récit, c'est cet aspect de l'immensité de Dieu avec toute sa puissance et qui pourtant choisit la plus faible et ne l'instrumentalise pas, ni ne l'écrase. Il aurait pu le faire, mais il demande l'autorisation de cette petite personne. Au contraire, cette puissance se met à la disposition de Marie. Incroyable, c'est le monde à l'envers. Et ce qui est même incompréhensible, les rôles semblent être inversés. C'est Marie qui accepte d'être un réceptacle pour que toute la puissance de Dieu soit effective. Tellement ce message est si fort que même l'Église catholique, nos frères catholiques, va même jusqu'à dire « tout pour Jésus par Marie et tout pour Marie par Jésus ». C'est ce qui fait la grosse différence entre nous, les êtres humains, et Dieu. Lui, sa toute-puissance, est au service de l'homme, faible, pour son bien. Tandis que nous, on a toujours cette tendance d'accaparer tous les pouvoirs qui puissent exister sur terre. Nous sommes toujours en quête des autorités afin de faire asseoir sur le monde notre domination. L'homme a toujours cherché à dominer ses semblables. Pourtant, il est faible. Il n'est que poussière, contrairement à Dieu qui est immense et qui frappe à la porte, qui demande l'autorisation si nous voulons le recevoir ou pas. Souvent, lors des séances d'études bibliques, quand on abordait ce genre de texte, la question qui revient à chaque fois, « Et si Marie avait refusé cette offre de Dieu ?» Supposons, elle aurait pu dire non, puisque Dieu est en train de lui demander « Acceptes-tu ?» Que se passerait-il ? Les uns diront « Mais Dieu savait à l'avance que Marie allait dire oui, puisqu'il est Dieu. C'est pour cette raison que Dieu l'avait choisi. » C'est une solution, une phrase facile. Les autres diront « Non, les textes prophétiques n'ont pas annoncé une personne précise, mais juste une vierge. Donc Dieu pourrait chercher une autre personne si elle aurait refusé. » Etc., etc. Pour ma part, je ne ferai pas de spéculation là-dessus, mais je me baserai sur ce qui est écrit ici. Cette femme dit « Je suis comblée de grâce » ou « La grâce m'a trouvé » deux possibilités de traduction. Et dans le langage populaire, si on traduit cette phrase, Marie a dit « J'ai de la chance ». Pour elle, c'est une chance d'être choisie par Dieu, mais pas un poids, ni un devoir. Dans le sens où elle va être enviée même par toutes les femmes de l'humanité, de toute l'histoire. D'ailleurs, toujours dans l'évangile de Luc, une femme parmi la foule qui écoutait Jésus, rappelez-vous, avait dit ceci, « Ah, heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Luc chapitre 23, verset 29b. Donc, de ce fait, je pense que Marie se sentait bénie parmi toutes les femmes. Quelle joie de savoir que le regard de son Dieu ait pu tomber sur elle. Tellement cette grâce est incommensurable qu'elle était prête à affronter les difficultés qu'elle redoutait, parce que c'est pas facile sa vie après. Elle sait ce qui va l'attendre. Les gens qui vont lui jeter la pierre, c'est quoi cette femme enceinte avant le mariage? C'est quoi cette femme ceci et cela? Mais elle dit tellement cette grâce est immense qu'elle ne voit même plus les difficultés. Voilà la bonne nouvelle de Noël, chers amis. Si tu es inondé de la grâce de Dieu, je ne dis pas que tes problèmes vont se résoudre, mais cette grâce dépasse tes problèmes. Cette grâce submerge tes problèmes. Cette grâce comble le vide. C'est pour ça qu'elle dit « Je suis comblé de grâce ». C'est-à-dire que cette grâce remplit tous les trous dans sa vie. Et on peut lire cela entre les lignes, en disant qu'elle ne connaît pas encore d'homme, et pourtant on lui annonce qu'elle va être enceinte. C'est pas facile pour l'époque. Peut-être aujourd'hui ça passe. Mais mettez-vous à la place de cette jeune femme de son époque. Le texte ne nie pas que c'est problématique ce qui l'attend. Joseph, son fiancé, rappelez-vous, il a même voulu la laisser. Mais ils étaient tous les deux prêts à affronter la société religieuse, pieuse de leur époque, non pas par rébellion, mais parce que la grâce les a comblés. Et la traduction qui parle de « comblé par la grâce » me semble assez juste, car cette grâce comble les vides. La grâce comble nos craintes. La grâce comble nos peurs, qui sont légitimes. Oui, Dieu ne nie pas nos peurs, mais il dit « ma grâce te suffit ». « Ma grâce te permet de te relever de la boue et de la poussière ». Chers amis, en ces temps de Noël, comment sentons-nous? Est-ce que nous avons un sentiment d'injustice vis-à-vis de Dieu sur ce qui nous arrive? On aurait voulu que Dieu nous traite autrement, n'est-ce pas? Je reformule ma question. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu te doit quelque chose? Est-ce ton sentiment actuel? Ou est-ce que nous qui sommes redevables à Dieu? Tout par-delà, je crois, notre façon de voir la vie. Alors, peut-être pour vous aider dans votre réflexion, je reprends un texte d'un psalmiste qui avait tout compris dans le psaume 116, verset 12. Voici ce qui est dit. « Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Maintenant, nous n'allons pas attendre quelque chose de Dieu pour ces fêtes de Noël, mais c'est l'inverse. Comment rendre à Dieu tout ce qu'il t'a déjà fait? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.